franceinter.fr.
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est ce matin l'invité de France Inter. Bonjour madame.
Bonjour.
Une partie de la gauche, beaucoup d'universitaires et intellectuels, l'ambassadrice d'Allemagne, des syndicats d'enseignants qui représentent 80% de la profession, plus de 230 députés de droite. La contestation de la réforme du collège et des programmes est un peu plus vive chaque jour. Vous n'avez pas le moindre doute ?
Oh, vous savez, des doutes, on en a toujours et heureusement, il faut être modeste dans la vie. Mais ce dont je suis convaincue, c'est que on ne peut pas rester sur le statu quo actuel s'agissant du collège. On a un collège qui produit des résultats scolaires trop mauvais, des inégalités sociales et scolaires qui n'ont cessé de se creuser et donc on ne peut pas laisser 140 000 jeunes sortir du collège, du système scolaire sans qualification. On doit prendre chacun des défis qui nous sont posés aujourd'hui, à commencer d'ailleurs par l'hétérogénéité du public accueilli aujourd'hui dans nos collèges, dans nos classes, et y apporter des réponses pour les faire mieux réussir. C'est ce que fait cette réforme, donc j'y crois beaucoup.
Et ceux qui la contestent sont des conservateurs ?
Et ceux qui la contestent, oh, vous savez, les contestations sont très hétéroclites. Il y en a qui portent sur des sujets de fond. Je pense par exemple à quelques organisations syndicales qui ne souhaitent pas le surcroît d'autonomie que l'on souhaite offrir aux équipes pédagogiques. On en parlera sans doute tout à l'heure. Et là, bien sûr que c'est un sujet légitime, c'est une façon de voir différente. Moi, j'estime que si on veut que les établissements scolaires puissent mieux s'adapter aux besoins de leurs élèves, il faut leur laisser une part de souplesse, de marge de manœuvre pour le faire. Et puis, il y a d'autres sujets, comme la question du latin, du grec, de l'allemand, qui ont été instrumentalisés ces derniers jours. On y reviendra sans doute aussi, à coup de rumeurs, de contre-vérités, qui ont inquiété légitimement un certain nombre de parents ou d'enseignants et sur lesquels je voudrais répondre avec précision parce qu'il faut qu'on ait du débat de fond et pas de la caricature.
Alors, on va y aller juste à 8h23 ce matin alors que le débat prend de l'ampleur. Qu'est-ce qui est encore ouvert ? Qu'est-ce qui peut encore être modifié dans les réformes ? Et qu'est-ce qui est fermé ? Il y a une réforme du collège et il y a une réforme des programmes. Les programmes, tout est ouvert encore ?
Oui, merci d'ailleurs de prendre le temps de cette précision. Il faut en effet distinguer la réforme du collège qui porte sur l'organisation du collège et les pratiques pédagogiques. Et donc celle-ci,
elle est bouclée, elle ne bougera plus. On va parler des critiques.
Celle-là, elle a été déjà adoptée.
Elle ne bougera plus.
Par l'instance légitime pour le faire, à savoir le Conseil supérieur de l'éducation, qui est un peu le parlement de la communauté éducative. Elle a été adoptée à 51 voix pour, 25 contre. C'était au mois d'avril dernier.
Donc, latin, classe bilingue, classe européenne, tout ça, ça ne bougera plus, quels que soient les arguments, quels que soient les arguments échangés dans les jours à venir.
C'est dedans, bien sûr, comme cette réforme du collège. En gros, c'est un décret, hein, puisque la loi
pas
de refondation,
publié.
Voilà, qui s'apprête à être publiée, la loi de refondation adoptée par le Parlement en 2013 prévoyait que nous allions donc mener cette réforme du collège. Donc aujourd'hui, c'est un décret que nous sortons pour tout simplement la conduire cette réforme.
Mais pardon,
du
il n'est pas encore publié. Cette réforme ne bougera plus.
Cette réforme ne bougera plus, mais si vous me permettez d'aller jusqu'au bout de mon argumentation, le décret donc va sortir et derrière il y aura un texte d'application, c'est comme ça que ça fonctionne avec n'importe quel texte, dans lequel seront précisés un certain nombre de points qui parfois font l'objet d'inquiétudes. Je pense par exemple à un certain nombre de syndicats qui s'inquiètent de la façon dont les enseignants vont pouvoir préparer ensemble ce travail interdisciplinaire qui est attendu d'eux. Eh bien c'est la circulaire d'application qui précisera tout cela pour que les choses puissent se mettre en œuvre le mieux possible. Donc il faut distinguer, je le disais, la réforme du collège.
Et les programmes.
Et la réforme des programmes. La réforme des programmes, aujourd'hui, c'est une instance indépendante qui s'appelle le Conseil supérieur des programmes qui a travaillé sur des projets de programmes. Ce sont des projets qui ont été rendus publics, certes, mais ce sont des projets qui vont évoluer, bien entendu.
Donc la discussion est ouverte.
La discussion est ouverte et hier encore, j'ai adressé ces projets de programmes aux 800 000 enseignants concernés pour qu'ils soient consultés sur leur contenu. C'est comme ça que nous procédons. C'est comme ça d'ailleurs que nous avons procédé pour les programmes de l'école maternelle. Et savez-vous que nous les avons adoptés et qu'ils rentreront en vigueur à la rentrée 2015 et que ça s'est très bien passé.
Et il y a eu une vraie remise en cause après les remarques des enseignants. Il y a une vraie réécriture.
Exactement. Donc maintenant, nous en faisons autant avec les programmes de primaire et de collège sur lesquels les enseignants viennent d'être saisis pour un mois. Et ensuite, les discussions continueront parce qu'il faut avoir des programmes de qualité et en même temps, notamment sur la question de l'histoire, des programmes consensuels.
Alors, histoire, parlons-en. Est-ce qu'il faut modifier l'équilibre entre ce qui est aujourd'hui obligatoire, les thèmes à traiter, et ce qui est de l'ordre du facultatif, les sujets abordés pour traiter ces thèmes.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que quelle est la difficulté des programmes qui existent aujourd'hui ? Ensuite, on comprend pourquoi on cherche à les changer. C'est que les programmes sont si lourds, n'importe quel enseignant vous le dira, notamment en histoire d'ailleurs. Les programmes d'aujourd'hui sont si lourds qu'ils ne leur laissent pas le temps de vérifier les acquis de leurs élèves. Qu'ils ne leur laissent pas le temps de faire vraiment le travail, de faire en sorte que leurs élèves rédigent une rédaction pour comprendre de quoi on parle, fassent des exercices, puis reviennent sur le sujet. Non, en fait, les professeurs passent leur temps à courir après la montre pour boucler un programme que généralement ils ne bouclent pas, sur lequel du coup, ils finissent par faire des impasses. Et c'est ça le sujet.
Donc il y a des thèmes obligatoires
pour les rendre non pas plus légers, mais pour les rendre moins prescriptifs en faisant davantage confiance aux enseignants. Donc il s'agit bien évidemment de leur dire qu'il y a des thèmes obligatoires dans le sens où toutes les périodes importantes qui ont fait l'histoire de France, mais aussi l'histoire du monde qui nous entoure, doivent être étudiées, mais pour leur laisser la possibilité d'approfondir tel ou tel sujet sans leur imposer une série de dates,
Est-ce que dans cet équilibre entre facultatif et obligatoire, il y a des modifications nécessaires ? Je prends l'exemple de la quatrième, le thème c'est l'Europe et le monde, 17e, 19e siècle, facultatif, la société au temps des Lumières. Voltaire facultatif aujourd'hui ?
Le président du Conseil supérieur des programmes, Michel Lussault, a eu l'occasion de s'exprimer sur ses projets de programme, donc, en disant qu'il reconnaissait quelques maladresses ou quelques incompréhensions, nées notamment du fait qu'il y ait des choses en gras et des choses qui ne sont pas en gras. Donc voilà, donc vous avez saisi que c'était un travail en évolution. Les enseignants nous font remonter en effet cette incompréhension face à ce classement entre thèmes qui seraient obligatoires et thèmes qui seraient facultatifs. Donc nous aboutirons sans aucun doute à autre chose que ce que vous voyez dans ce projet-là pour préciser qu'il y a bien sûr des périodes de l'histoire que tous les élèves de 6e, de 5e, de 4e, de 3e, dans tous les collèges de France devront avoir vu, mais en leur laissant le temps de se les approprier. Au fond, la réforme du collège, comme celle des programmes, n'a qu'une vocation, c'est faire en sorte que, à la sortie du collège, les élèves maîtrisent vraiment les savoirs qu'on leur a transmis pendant ce collège. Je vous le demande, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ils maîtrisent ce qu'on leur a transmis ?
La réponse est plutôt non, en effet.
Voilà.
Les classes bilingues, pourquoi supprimer un programme qui marche ?
Les classes bilingues, c'est quoi ? Les classes bilingues, c'est la possibilité offerte à des élèves de 6e de faire deux langues en même temps.
Anglais et allemand le plus souvent.
Voilà. Alors que le reste des élèves commencent leur première langue, comme vous le savez, en primaire, et leur deuxième langue en quatrième aujourd'hui. Bon. Demain, la réforme prévoit que tous les collégiens commenceront leur deuxième langue
dès la cinquième.
Ça veut dire qu'on avance d'une année avec des heures en plus. Hein, parce que là encore, j'ai entendu beaucoup de bêtises. Il ne s'agit pas d'avancer la LV2 en cinquième sans augmenter le nombre d'heures. Il y aura bien 54 heures de plus d'enseignement de la LV2 pour tous les collégiens.
Précisément sur les classes bilingues, Najat Vallaud-Belkacem, 15% des élèves concernés en sixième, ça marche. Pourquoi le supprimer ?
Alors, sachez que pour ceux qui ont commencé en langue vivante, une au primaire, une autre langue que l'anglais. Ils pourront continuer à être bilingues en sixième.
Ce qui ne compense pas la disparition.
Parce qu'on leur laissera la possibilité, on leur garantira même la possibilité de faire de l'anglais dès la classe de sixième. Donc le bilinguisme en sixième, finalement, ça concernera plus de monde parce qu'on garantira, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, aux élèves qui ont commencé une autre langue que l'anglais en primaire, de pouvoir faire de l'anglais dès la sixième. Pourquoi faisons-nous ça ? Pour assurer la diversité des langues choisies en LV1. Ça a été réfléchi tout cela, on ne fait pas nos réformes aux petits doigts mouillés. On a réfléchi, on s'est demandé comment assurer que toutes les langues possibles pouvaient vraiment être sur tout le territoire prises en LV1 et pas seulement l'anglais. Eh bien, pour le faire, nous rassurons d'une certaine façon les parents en leur disant « c'est pas parce que vous aurez fait faire une autre langue en LV1 que l'anglais à votre enfant que ce dernier attendra trop longtemps avant de commencer à pratiquer l'anglais qu'on sait indispensable dans ce monde. » Maintenant, pour le reste, donc pour les bilingues qui n'étaient pas
et
de
juste
continuité.
Vous citez ce rapport de l'Inspection Générale de l'Éducation nationale qu'évoquait Dominique Seux et que vous avez reçu en décembre, qui à propos de ces groupes bilingues disait « Dès lors que les élèves de ces dispositifs sont répartis pour les autres enseignements dans plusieurs classes, ils constituent une tête de classe au bénéfice de tous. » Au bénéfice de tous. C'est-à-dire que le côté peut-être élitiste de l'enseignement se retrouvait et pour tous les autres élèves avait un effet sur tous les autres élèves et sur l'établissement complet.
Mais la question, c'est aujourd'hui, avec la réforme du collège, on offre l'excellence à tous les élèves. Donc pourquoi est-ce que vous voudriez qu'on conserve des dispositifs dérogatoires qui n'ont pas de raison d'être pour 15% d'entre eux?
Parce que c'est pas rien, hein, 15% au passage.
Oui, non, mais c'est pas rien, mais c'est très bien. Mmh. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, monsieur Dives, c'est que dans le collège tel qu'il fonctionne aujourd'hui, vous avez pour 15% de collégiens, entre les options latin, les filières dérogatoires, les sections européennes, etc., un nombre d'heures de cours supplémentaires par rapport à leurs camarades, donc quand même 85%, c'est beaucoup, c'est considérable, un nombre d'heures supplémentaires extrêmement important. C'est pour ça que vous avez un collège à deux vitesses. On a calculé qu'entre ces différentes sections, options, etc., sur une scolarité de collège entière, vous avez en gros 650 heures de plus pour les élèves qui sont dans ces dispositifs que pour les élèves qui n'y sont pas. Comment voulez-vous que les élèves soient ensuite à égalité devant la réussite? Alors nous faisons une réforme dans laquelle il ne s'agit pas de retirer des choses sans rien offrir en contrepartie.
Mais vous nous dites pour assurer
en
plus.
En contrepartie, nous offrons à tous les élèves davantage. Donc c'est bien normal de mettre fin à des dispositifs dérogatoires. C'est une question de répartition des moyens.
Pour assurer plus d'égalité, il faut réduire la voilure sur certains dispositifs jugés élitistes.
Moi, je pense que pour assurer plus d'égalité, c'est-à-dire pour démocratiser la réussite, parce que je crois que chaque enfant est digne de réussir, c'est peut-être ça qui me distingue d'autres. Pour démocratiser la réussite, on doit, dès lors qu'on en a les moyens, et on en a les moyens, on met 4000 postes dans cette réforme, on doit offrir à chaque élève le mieux, le mieux. On ne doit pas réserver...
Le mieux est le même.
Le mieux, pas forcément le même. C'est là que je ne suis pas d'accord, ni avec vous, ni avec mes détracteurs. Pas le même, parce que fait la réforme du collège? Par le biais de l'accompagnement personnalisé en particulier.
Oui,
elle s'adapte à la singularité de chaque élève. Dans l'accompagnement personnalisé, dans le travail en petit groupe, qu'est-il prévu? Il est prévu que ceux qui sont en difficulté bénéficient d'un rattrapage, mais que ceux qui sont en avance, les meilleurs, bénéficient d'un approfondissement de leurs connaissances. Chacun est traité de façon non uniforme. Donc il s'agit bien, mais dans des classes entières, d'offrir encore une fois le meilleur à chacun pour tirer chacun vers le haut, de ne pas faire des classes de niveau. Vous savez bien ce
c'est
que
des classes
produisent
de niveau
les
masquées,
classes de niveau.
C'est
bien sûr.
Ces classes européennes.
Et vous savez ce que produisent les classes de niveau? Les classes de niveau, elles séparent les enfants. Comment voulez-vous apprendre aux enfants à vivre ensemble alors qu'à l'école, on commence par les séparer? On parle d'enfants de 11 ans. Ça ne me dérange pas qu'on sépare, qu'on trie, qu'on sélectionne des enfants quand ils ont 16 ans, 17 ans, quand ils sont au lycée. Mais quand on parle d'enfants de 11 ans, vous ne croyez pas qu'on a plus à gagner à la mixité scolaire? À la mixité scolaire, parce que les classes de niveau, donc non seulement elles séparent les enfants, mais en plus elles enferment ceux qui ne sont pas dans ces meilleures classes. Là, ceux qui sont donc dans les autres, les 85%
et elles
d'autres,
ne tirent pas vers le haut des établissements,
enferment,
par exemple
enferment,
dans des quartiers difficiles.
Elles les enferment dans l'idée que la réussite n'est pas faite pour eux.
Toute voilà. Dernière question avant la revue de presse et réponse courte, s'il vous plaît. Ce mot d'ennui, de lutter contre l'ennui qui vous a été reproché, est-ce que vous reconnaissez, vous nous dites ce matin, que oui, apprendre au collège, ça nécessite une part d'effort et parfois d'effort rébarbatif et qu'il faut en passer par là?
Mais bien sûr, mais évidemment. Ouais, vous savez, le problème, je trouve, hein, du débat public actuel, c'est que malheureusement, chacun de nos mots finit par être tronqué, tweetisé, réduit.
C'est joli.
Oui, tweetisé, c'est-à-dire réduit et forcément caricaturé. Ce qu'on entend par ennui, c'est passivité, c'est le fait qu'on est dans un collège qui, d'une certaine façon, malgré les efforts des enseignants, c'est pas à eux que je jette la pierre, mais ne sollicite pas assez la participation active des enfants. Ils ont beau tenter de le faire, les enseignants, ils reconnaîtront tous qu'ils ont dans leur classe beaucoup d'enfants qui ne prennent jamais la parole, qui ne demandent jamais d'explications quand ils ne comprennent pas. Voilà, et ces interactions-là, il faut pourtant absolument les créer, parce que sinon vous avez des enfants qui sortent du collège sans maîtriser l'oral, en n'ayant pas la
mais
moindre confiance en eux-mêmes. Et il faut de l'effort, bien entendu. Et les enseignements pratiques interdisciplinaires, qui est la grande nouveauté que nous introduisons...
Et dont nous parlerons promis après la revue de presse.
Nous parlerons tout à l'heure. L'effort n'en est pas banni. Enfin, je veux dire, conduire un projet, faire un travail collectif, être dans un esprit créatif, en quoi est-ce que ça c'est inconciliable avec l'effort? Bien au contraire.
01 45 24 7000, franceinter.fr pour vos questions à la ministre de l'Éducation, invitée de France Inter, jusqu'à 9h05.